Mesdames, Messieurs, dans le procès qui s'était presque terminé ce matin et qui a pu finalement permettre au président d'assises de me libérer pour que je participe à cette table ronde, l'avocat de la défense a fait état d'un ennemi ou d'un facteur invisible. C'était le temps. Le temps. Parce que là, on vient parler du temps de l'instruction, du temps de la commission des faits, du temps de la prise en charge de la victime ou des victimes au sein du MJ. Mais après, le temps de l'instruction, il y a le temps du règlement par le parquet, il y a le temps pour le juge nécessaire pour qu'il puisse rendre son ordonnance de règlement, et ensuite, il y a le temps d'audiencement du dossier devant la cour d'assises, première instance. Et là, pour un dossier de détenu, la cour d'appel de Bordeaux est encore une des seules à pouvoir faire que soit jugé dans un délai d'un an prescrit par la loi, dans le délai d'un an prescrit par la loi, les victimes, le dossier, vous voyez comment on se formate très vite, le dossier dès lors que la personne est détenue, qu'une personne est détenue. Si la personne n'est pas détenue, alors là, je ne dirais pas que le dossier tombe aux oubliettes, puisqu'il n'y a pas d'oubliettes, mais néanmoins, l'urgence qu'il y a à l'enrôler à une date de session est moindre. Et il pourrait être enrôlé 2 ans, 3 ans après, parce que au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, les dossiers de détenus arrivent sur mon bureau. Cette semaine, 4 jours d'assises, 6 dossiers de détenus sont arrivés sur mon bureau. Inutile de vous dire qu'ils vont être prioritaires en termes d'audiencement, donc on les audiencera au premier semestre 2024 maintenant, mais les dossiers dans lesquels aucune personne n'est détenue, ils sont décalés à chaque fois, c'est l'effet domino, on les décale d'un cran à chaque fois. Et puis de temps en temps, on a un petit créneau et on peut juger, comme on a jugé, ça, le verdict vient d'être rendu, François Arenas, c'est public, 5 ans après les faits. Il avait 19 ans, il en a 23 aujourd'hui. Quand on voit les photos de ce jeune au moment du passage à l'acte, on voit un minot, un gamin, un drôle, comme on peut dire, dans certaines régions. Le dessinateur qui l'a croqué avec magnifique petite aquarelle, il était à côté de moi, me dit « Mais il a quel âge votre accusé ?» Alors on lui donne 12 ans. Je dis « Non, rajoutez 10 ans, mais c'est vrai qu'il fait juvénile. » Et puis pour les victimes. Et pour les victimes, c'est la même chose. Imaginez que l'on vous convoque à un procès qui est le procès de votre vie, parce que vous avez été violé, agressé physiquement, vous avez été blessé par balle, ou votre proche a été grièvement blessé par balle sous vos yeux, et vous l'avez vu presque partir à ce moment-là, et on vous demande de revenir expliquer tout cela, de réactiver votre souffrance 5 ans après les faits. Et là, c'est en première instance. C'est-à-dire que s'il y a appel, il faudra compter une année supplémentaire. Et de nouveau, ce grand déballage qui va, de fait, tant pour l'accusé que pour les victimes ou les ayants droit des victimes, réactiver les faits et leurs souffrances. C'est pourquoi très souvent, dans mes réquisitions ou dans ce type de colloque, je parle de survictimation, c'est-à-dire qu'on est victime à permanence, on devient victime professionnelle. Je déteste le statut de victime parce que dans la vie, on n'est pas que victime, on peut avoir été victime de choses extraordinairement terribles. Je regarde le beau visage de Simone Veil. Simone Veil, d'ailleurs, qui a participé un jour sur un plateau télé à une rencontre avec un autre monsieur qui est complètement à l'opposé. C'est Krasucki. Vous ne vous rappelez pas le monsieur Krasucki, qui était un des patrons de la CGT. Ils ont découvert que par une terrible nuit en Allemagne, ils étaient l'un en tête de colonne, l'autre en queue de colonne, à marcher sur des routes glacées sous la schlag des nazis parce qu'il fallait les faire évacuer leur camp pour les emmener dans un autre camp. Ils ne le savaient pas. Et ils sont tous les deux juifs d'origine polonaise. Et ils sont pratiquement tombés dans les bras l'un de l'autre, alors que si tous les rassemblaient par rapport à cette histoire, tous les divisaient aussi par rapport à leur parcours politique, même s'ils étaient l'un et l'autre teintés d'un humanisme réel, sincère et certain. Voilà, ça c'était ma dose d'humanité. Maintenant revenons à nos moutons, c'est-à-dire les dossiers. Parce que dans les dossiers, moi je ne gère que ça. Et puis je regarde effectivement ces évaluations faites à chaud. C'est très bien une évaluation à chaud, c'est très très bien, c'est nécessaire. On les demande, on en a besoin. C'est une photographie d'un instant T à un moment T. D'accord ? C'est tout. Il ne faut pas y attacher plus d'importance que cela. Ensuite, vous avez la capacité de résilience. Ou alors, l'incapacité de résilience qui fait que la personne qui a été victime d'un certain fait à un moment donné va voir son état considérablement s'améliorer. La preuve, on peut s'en sortir très bien dans la vie après avoir vécu à peu près ce qu'on peut estimer être le plus abominable possible. Ou alors, on va, à partir d'un fait qui finalement pourrait paraître globalement anodin, on va s'effondrer totalement, se liquéfier ou se exploser totalement. Et nous, dès lors que nous avons ces dossiers à traiter à l'audience, nous avons besoin de photographies à d'autres instants que l'instant quasiment immédiat du passage à l'acte. Parfois, les victimes vont directement au COVA, c'est Bordeaux, ça, immédiatement après le passage à l'acte. Elles sont donc investiguées, comme on dit, hein, examinées, entendues, écoutées, auscultées, très très peu de temps après le passage à l'acte, ce qui pour elles parfois d'ailleurs est aussi douloureux que le passage à l'acte lui-même. Parce que demander à une jeune femme victime de viol ou à un enfant victime de viol de se déshabiller, de bien écarter les jambes pour permettre de passer le spéculum, ça va être un petit peu compliqué quand même. Hein, on est entre professionnels, on peut parler de choses comme ça. Après, quand on juge le dossier, les derniers actes d'investigation médicaux, psychologiques, psychiatriques sont ceux ordonnés par le magistrat instructeur, qui peut, très généralement, comme je le faisais moi quand j'étais en instruction, on balance les premiers actes tout de suite, toute une panoplie d'actes d'investigation, enquête de personnalité, examen psychologique, expertise psychiatrique, d'entrée de jeu. C'est donc fait pratiquement immédiatement après la mise en examen ou après l'audition de la victime. Mais si l'instruction dure 2, 3, 4 ans, comme dans certains dossiers, et ce ne sont pas les hypothèses d'école, ces durées, eh bien on se rend compte que la petite fille qui avait 10 ans, quand elle va voir le dossier être jugé, elle en a 16, 17, 18. Donc l'évaluation de la victime, de mon point de vue, devrait se faire de manière non pas figée, mais dynamique, avec des prises de photos à différents âges de la vie. Et quand j'étais juge d'instruction, je demandais aux enquêteurs de prendre les livrets scolaires, les carnets scolaires et les carnets de santé, de façon à voir l'évolution de la courbe staturo-pondérale et l'effondrement corrélatif de l'assiduité scolaire ou des performances scolaires. Et là, on avait la date de commission des faits ou la période de commission des faits qui s'affichait clairement. D'accord ? Et n'oublions jamais que lorsqu'on entend un enfant sur les violences sexuelles ou les violences physiques dont il a pu être victime, le seul repère temporel qu'il peut mobiliser, c'est généralement dans quelle classe tu étais. Raconte-moi, dans quelle classe, qui c'était ta maîtresse ? Ou ton instituteur. Donc on va lui poser ce genre de questions. Alors au parquet de Bordeaux, au parquet général de Bordeaux, nous nous sommes posés ces questions. Je suis chargé du service des assises, c'est-à-dire que je veille sur l'audiencement d'environ 75 dossiers par an en moyenne. Il faut déterminer des ordres de priorité, équilibrer les sessions, il faut veiller à tout cela, et puis analyser chaque dossier. Qu'est-ce qu'il nous manque dans ce dossier ? Est-ce qu'il y a besoin ou pas d'une réactualisation ? Nous aimerions, dans chaque dossier, pouvoir proposer une nouvelle expertise psychologique ou un complément d'expertise psychologique ou psychiatrique et une évaluation d'enquête de personnalité à refaire pour l'accusé ou les accusés et les victimes. Pardonnez-moi, je ne parviens pas à distinguer entre les êtres humains. Pour moi, l'accusé, c'est important tout autant que là où les victimes. Chacun mérite que le dossier soit évalué au mieux et si possible aussi, comment dire, l'interaction dynamique entre, dès lors qu'il s'agit notamment de crimes familiaux, entre l'auteur présumé des faits et la victime ou les victimes. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi les faits ont-ils pu se commettre pendant des années et des années, s'installer sans que personne ne se rende compte de rien, et surtout pas les proches ou les plus proches ? Est-ce que c'est une volonté réelle de fermer les yeux ? Est-ce que ça a été caché, camouflé ? On a tous les discours, on a toutes les versions, mais néanmoins tout ceci mérite effectivement d'être travaillé et puis d'être investigué. Le temps de l'audience après arrive. Alors à Bordeaux, nous avons une chance inouïe, mais je pense que dans d'autres villes, vous avez la même chance, c'est que nous avons une association qui s'appelle Victed, qui est chargée de prendre en charge les victimes. Marion Bagnère, qui est celle qui est l'interlocutrice du parquet général, vient au greffe, récupère les noms de chaque victime ou de chaque dossier, et va ensuite contacter, à la demande du parquet général, chacune de ces victimes pour voir si elle a besoin d'un accompagnement à l'audience. Parfois, elle les a vus en tout début de dossier, parce que les victimes sont adressées à cette association. Ils ont pu mettre en place un parcours au long terme. Mais 5 ans après, il est rare que le parcours subsiste, que le parcours ait été aussi long. Mais à l'audience, elle sera là pour pouvoir accompagner ces personnes qui, parfois, ne savaient pas qu'ils pouvaient se constituer partie civile, ne savaient pas qu'elles pouvaient constituer avocat, et se retrouvent tout seuls, tout seuls. On a eu une jeune femme qui arrivait de Paris, qui avait été violée dans un squat à Bordeaux, jeune femme d'origine africaine, et qui arrive ici avec sa convocation et qui nous explique depuis qu'elle a été violée, elle avait eu une fracture au niveau de la clavicule, elle ne pouvait plus mobiliser son bras, elle était mère de famille, enfin, et personne pour la représenter. Et donc, Victed, Marion Maguignal est venue me voir, on a trouvé la solution qui était de l'aider à rédiger des conclusions de demande d'indemnisation de façon à ce qu'elle, après, elle puisse mobiliser la CIVI. La CIVI, combien de temps après la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, combien de temps après va-t-elle pouvoir statuer ? Un certain temps, mon général. Un certain temps. Ça dépend. Ben oui, parce que les expertises qui ont été ordonnées avant ne sont pas opposables à la CIVI. C'est-à-dire qu'il va falloir de nouveau que la victime subisse une ou plusieurs expertises pour déterminer si, oui ou non, son préjudice peut être éligible à une indemnisation ou pas. Donc c'est un parcours sans fin. Et nous essayons actuellement de mettre en place un système qui garantit une égalité des chances aux victimes, une égalité de traitement. Et qui garantit surtout que le procès soit aussi transparent, impartial et équitable que possible. Je n'ai aucun état d'âme à requérir des peines lourdes concernant certains accusés qui ont pu commettre des faits qui le justifient, mais encore faut-il que le dossier soit suffisamment en état pour que tout le monde comprenne qui a assisté à ce procès, pourquoi on en vient à requérir cette peine et dans quelle logique et dans quelle perspective. Et pour la victime, c'est pareil. On les voit partir juste après le procès. Parfois, on vient me voir dans le passé des pas perdus. Est-ce qu'il va faire appel ? Est-ce qu'il va faire appel ? Ça, madame, monsieur, je ne peux pas vous le dire, mais il a le droit de faire appel. Et en appel, la question, c'est pensez-vous qu'il va former un pourvoi en cassation ? Parce qu'il pourrait y avoir un troisième procès d'assises, et cette fois-ci dans une ville qui sera désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Donc pour les victimes, si vous voulez, il n'est pas si difficile que cela, de s'installer dans le statut de victime, c'est-à-dire de se professionnaliser comme victime. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame ? Je suis victime. Victime de mon mari, victime de la vie, victime de ceci, victime de cela. Attention, moi je leur dis toujours, vous n'êtes pas que victime, vous avez été victime à un moment donné de votre vie, comme vous auriez pu être victime d'autre chose à un autre moment de votre vie, comme peut-être vous serez victime d'autre chose à un autre moment de votre vie, mais être victime n'est pas quelque chose qui doit balayer tout le reste et faire disparaître tout le reste. C'est quelque chose sur lequel vous devez vous appuyer pour pouvoir avancer, progresser encore. Et souvent, je cite Simone Veil ou Raymond Krasucki, parce que pour moi, ou aussi Georges Charpak, qui est un de mes grands... Je ne suis pas un grand spécialiste de la physique et de la physique nucléaire, mais c'était quand même pas mal, puisqu'il a été lui aussi en camp de concentration, qu'il a su sortir et qu'il est devenu prix Nobel quand même. Bon alors, tout le monde ne sera pas prix Nobel, hein, je rassure tout le monde, on n'est pas obligé en plus, on n'est pas du tout obligé, mais c'est quand même cette capacité, la magnifique traduction de la capacité de résilience de chaque être humain. Et je pense que le rôle de nos experts et de nous magistrats, c'est d'essayer de leur expliquer que guérir, c'est possible. Progresser et progresser encore, c'est sûrement nécessaire. Merci.